Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous repartons pour une deuxième semaine sur le thème de l'éthique de la santé avec le docteur Olivier Garot pour le livre « Soigner en chrétien » aux éditions de l'Emmanuel. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, votre livre est à offrir à tous nos futurs et jeunes médecins catholiques. Il servira de boussole et leur permettra de ne pas se confronter à des illusions qui pourraient les déstabiliser. Docteur, je rappelle que vous êtes ancien médecin des hôpitaux, professeur émérite des universités. Vous avez commencé votre carrière en cancérologie avant d'opter pour l'hématologie et l'immunologie. Voilà, ce sont des domaines dans lesquels vous avez mené une activité de recherche à Pasteur et à l'INSERM. Vos dernières années professionnelles sont menées maintenant en EHPAD, n'est-ce pas? Où vous accompagnez.
Tout à fait, absolument.
Voilà.
Les personnes âgées.
Que ce soit le serment d'Hippocrate réécrit en 2012, j'ai appris dans votre livre. Du reste, pourquoi est-ce qu'on l'a écrit, réécrit?
Alors, je crois que j'ai cité aussi les anciennes formes, donc c'est vrai qu'elles sont un tout petit peu obsolètes, mais il n'est pas si changé que ça, en fait. Il y a des formes qui étaient peut-être un petit peu anciennes. Et c'était bien de réécrire de façon à ce que le langage puisse parler, qu'on n'ait pas l'impression d'une pièce de théâtre. Et ça, c'est bien de moderniser pour que les paroles qu'on peut prononcer aient une résonance dans la vie actuelle. Le problème, c'est effectivement en ont-elles, parce que en fait, c'est très fort ce qu'on lit le jour où on passe sa thèse. Et c'est extrêmement... on aurait intérêt à le relire régulièrement. Parce qu'on dit des choses qui sont d'une puissance et d'une implication tellement forte dans la vie de la pratique que ça serait bien de s'y référer, je crois.
Ça veut dire qu'il y a un petit décalage entre ce qui est dit ce jour-là et ce que...
Il y a déjà le « tu ne tueras pas », donc oui. Grosso modo, ça c'est déjà un tout petit peu gênant parce qu'il y a quand même des circonstances... Vous l'avez dit la semaine dernière lors de l'émission précédente, mais il y a quand même le problème de l'interruption médicale de grossesse, donc il y a été quand même une grosse brèche dans ce « tu ne tueras pas oui. ». D'ailleurs, l'ancienne formule, là, c'était carrément, on détaillait même qu'on ne mettrait pas de PCR abortif, qu'on allait dans les détails de comment on ne ferait pas d'avortement. Donc, depuis assez longtemps, ce problème de l'avortement était bien considéré comme étant un sujet d'éthique médicale. Et puis, actuellement, ce profil, tu ne tueras pas par l'euthanasie passive ou par l'assistance à mourir.
De toute façon, dans l'esprit des gens, on ne tue pas, puisqu'on élimine juste un amas de cellules.
Alors, pour l'IVG, oui.
Oui, on l'entend beaucoup,
alors, ce qui est...
Oui, c'est ce qui est enseigné à nos enfants à l'école, en plus.
Alors, moi ça, chaque fois, ça me sidère littéralement, dans la mesure où ce sont ces mêmes personnes qui sont les grands zélateurs de l'IVG, qui demandent à ce que des interruptions puissent être faites plus tardivement, de façon à ce qu'on puisse avoir accès à des embryons qui ont des fonctionnalités pour lesquels on pourrait faire de la médecine générative en exploitant ces fonctionnalités des embryons abortés. Si c'était juste un amas de cellules non vivantes, non intéressantes, ne devrait pas y avoir de sujet. Là où il y a un sujet, c'est bien parce que c'est vivant. Je dis « c'est », je ne devrais pas dire « c'est », parce que la personne est vivante, la personne en devenir est vivante. Et donc, il y a un paradoxe, mais qui ne gêne personne d'ailleurs. On voudrait avoir des embryons le plus tard possible, c'est bien qu'ils sont vivants.
Oui. Alors, pour avertir nos auditeurs, côté pratique, vous nous parlez du dossier médical partagé, qui est un document sensible. Dites-nous ce que vous en pensez.
J'en pense à la fois du bien et du mal.
Eh bien oui, mais justement, moi j'avais entendu parler que de bien à ce sujet-là, et puis en lisant votre livre, j'ai compris certaines choses.
Alors, j'en pense globalement du bien. Alors, on va quand même dire qu'il y a plus de bien que de mal. Le bien, c'est quand même que ça aide énormément la prise en soin des patients parce que le médecin qui suit va avoir accès à des informations que la personne malade oublierait de lui donner dans l'émotion par oubli tout simplement, ou parce que, y a une petite perte de mémoire. Et ça permet de reconstituer une histoire médicale, ça permet de faire attention à pas donner des médicaments qui seraient bien pour la consultation d'aujourd'hui, mais qui seraient contraires à la consultation du confrère, et ainsi de suite. Le seul bémol, et c'est pour ça qu'en fait il faut l'encadrer et y être vigilant, c'est qu'en fait on déverse un tout petit peu sur une place publique, et actuellement c'est piratable,
Ça, c'est
beaucoup
un problème.
d'informations. Hein. Extrêmement personnel, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus vraiment de vie intime au sens où tout le monde sait tout ce que vous avez eu. Or, c'est vrai que je dis souvent, bah, est-ce qu'un cardiologue a besoin de savoir que vous avez des problèmes de gynécologique ou de prostate? Alors, est-ce que je dis
Pour le
souvent que c'est aussi
traitement.
dans le livre? Bah, pour le traitement, oui, mais alors, officiellement, il n'en aurait pas besoin. Cela étant, ça va quand même l'aider dans le choix des médicaments qu'il va vous proposer pour votre tension. Il y a des Voilà, donc c'est quand même pas mal. Et là où je fais une petite boutade dans le, mais je crois que c'est plus pour alerter en fait. Enfin, c'est chez le pharmacien en particulier où là, à l'hôpital, à la limite, on prend plein de précautions, etc. Mais chez le pharmacien, tout le monde voit ce que vous avez
Oui.
en voyant le médicament qu'on vous met sous le comptoir. En fait, c'est là pour le coup, c'est plus du tout transparent. Et comme les pharmacies sont de quartier.
En plus, oui. Vous évoquez l'augmentation bionique. En quoi doit-elle ou peut-elle ou doit-elle être restrictive?
Alors moi,
Alors peut-être qu'on peut en donner la définition, dire ce que c'est que l'augmentation bionique pour nos
Alors
auditeurs.
c'est un peu ces augmentations actuellement qui peuvent être pour différentes fins, si vous voulez. Pour une personne handicapée, recevoir une augmentation, un exosquelette, c'est une chance de remarcher, c'est une chance de remener une vie moins anormale, moins douloureuse, moins. Alors ça, c'est une chance merveilleuse. Pour une personne qui a des problèmes neurologiques, le fait d'avoir une implantation de quelque chose, c'est juste une bouffée d'oxygène extraordinaire. Si ces dérives se font pour augmenter la capacité de l'homme, le rendre plus invincible, le rendre un petit peu comme les méchants dans les films de James Bond ou les autres, vous voyez, là, pour le coup, tout dépend de l'intention. C'est comme toujours en éthique. Si l'intention est de d'aider une personne malade, elle est bonne. Si l'intention est de renforcer l'impunité criminelle, elle est mauvaise.
Alors, il y a des mots pièges quand même, hein. On se rend compte que ce soit, alors on avait parlé de dignité, mais soins, souffrance, douleur, on a l'impression que tous ces mots sont un peu des mots pièges que chacun, dont chacun a une définition différente. Quand on parle de la santé de la femme, par exemple, c'est pas forcément pour la soigner. Quand on parle de dignité, mourir dans la dignité, comment ce sont des, enfin, ces pièges. Cette nouvelle langue, en fait, détourne les mots de leur origine.
Les philosophies s'en sont toutes emparées et selon les grandes lignes philosophiques, selon le fait qu'elles ont complètement vidé l'homme de toute connotation divine. Bah, par exemple, c'était le cas pour la dignité, c'est-à-dire que il y a une définition totalement laïque de la dignité et cette définition laïque de la dignité, c'est celle de l'ADMD, enfin c'est celle qu'on nous met en avant là pour l'instant pour l'aide à
L'aide
mourir pour la dignité.
mourir, oui.
C'est par exemple pour eux l'indignité, c'est d'avoir mal et c'est de plus avoir le contrôle de ses membres et en particulier ou de ses sphincters. Pour nous, enfin pour les soignants, une personne qui n'a pas le contrôle de ses sphincters, c'est juste une personne qui n'a pas le contrôle de ses sphincters. En quoi est-elle indigne? De rien du tout. Elle est juste âgée, elle est juste malade. La dignité, pour les chrétiens, on ne peut pas l'enlever. Donc, on ne peut même pas mourir dans l'indignité, puisqu'il n'y a pas d'indignité. C'est un concept qui n'existe pas en langage chrétien. La dignité, elle est née avant que vous ne soyez né, en fait, puisqu'elle est donnée à l'homme par Dieu dans l'intention de l'homme, c'est-à-dire grosso modo avant sa naissance, puisqu'il nous connaît depuis avant que nous soyons nés. Donc il n'y a pas d'indignité, jamais. Donc c'est un concept sur lequel on ne peut pas se réconcilier intellectuellement. Et ça a beaucoup d'impact parce que ce droit à mourir dans la dignité, bah oui, nous aussi, on est, mais on meurt dans la dignité toujours. Alors ensuite, c'est le droit. C'est comme le droit à l'avortement, le droit à mourir, le droit à avoir un enfant. Actuellement, on a des droits à tout. Et c'est ça qui pose beaucoup de questions éthiques. C'est a-t-on le droit à un enfant? L'enfant est-il un objet de droit? Ben non, bien évidemment. Enfin, bien sûr que c'est extrêmement douloureux de ne pas avoir de descendance d'enfant, mais ça ne veut pas dire que le couple est infertile. Il n'est pas fertile par la naissance d'un enfant, mais il est fertile dans plein d'autres choses. Les prêtres et religieuses ont des fertilités extraordinaires. Il y a beaucoup d'endroits de fertilité qui passent par autre chose que qu'un enfant. C'est pas un droit. Le droit à contrôler sa sexualité, le droit à contrôler sa fertilité, le droit à orienter sa reproduction sans homme, par exemple. Tout ça, c'est pas des droits. Enfin, c'est des passe-droits, en tout cas, ou c'est des aménagements des possibilités scientifiques. Mais ce n'est pas respecter cette dignité ontologique qui vient de ce que le Seigneur nous a donné.
On doit prendre soin des patients et des soignants. Vous consacrez quelques chapitres au corps médical. Il s'efface trop au profit du malade dans l'esprit de chacun, à votre avis?
En tout cas, on nous le reproche. Nos propres proches et nos amis nous disent souvent que le syndrome du sauveur, ça va bien, mais il faut qu'on pense un peu davantage à nous. Oui, c'est vrai. On a un peu tendance à pas savoir nous-mêmes prendre assez soin de nous ou prendre autant soin de nous que nous prenons soin des autres. Bon, voilà, c'est un petit peu, c'est un peu une boutade, mais c'est un peu dévorant le fait de s'occuper de personnes en souffrance parce qu'il n'y a jamais de fin, en fait. Donc, du coup, c'est un souci permanent. On y repense chez soi, on y repense sur le trajet, on y repense beaucoup. On est à peine rentré chez soi qu'on repasse un coup de fil en disant à l'infirmière, je crois que j'ai oublié ci, ou il faudrait vérifier ça, ou je ne suis pas sûr d'y repenser demain, je vous le dis tout de suite. Enfin, voilà, c'est vrai que, il faudrait qu'on arrive à poser un peu plus notre cerveau, mais le problème, c'est qu'on s'occupe de personnes qui sont dans des situations précaires et que si on ne le fait pas immédiatement, ce sera peut-être trop tard.
Alors, si j'avais un enfant qui me disait qu'il aimerait faire médecine maintenant, on sent qu'il y a quand même une grande pression pour ces étudiants. Un jeune qui arrive en médecine, je dirais tout frais, motivé, qui a des convictions profondes, c'est sans doute très difficile pour lui, je pense, de suivre des cours. Est-ce qu'il y a des écoles où on sait que l'étudiant aura un discours beaucoup plus adapté à ses convictions que ce qu'il peut entendre par ailleurs?
Alors, je dirais pas en faculté, mais je pense que d'abord, je serais ravi qu'il y ait quelques jeunes médecins qui arrivent et qui se partagent nos façons de voir, parce que la relève soit assurée, je crois que rien ne nous ferait plus plaisir. Mais il y en a un, je suis rassuré. Moi, j'en rencontre régulièrement, je rencontre et chaque fois, je me dis, mais merci Seigneur de nous avoir envoyé la suite, quoi. C'est un plaisir. Ensuite, il faut pas que ces jeunes étudiants restent seuls. Faut qu'ils s'arrivent à se repérer entre eux et à rester. Alors, il y a des tas de groupes qui accompagnent. Moi, j'ai fait une conférence mardi dernier aux jeunes pros de Limoges où il y avait quelques étudiants en médecine. Et en fait, bah, c'est super qu'ils aillent, enfin, qu'ils se soutiennent dans leur. C'est bien aussi qu'ils puissent aller en parler à d'autres médecins plus seniors, qu'ils puissent en parler en paroisse, qu'ils puissent aller en parler en famille. C'est vrai que ça ne va pas être facile, mais ce sont des métiers qui sont compliqués. Il y a énormément de choses à apprendre. Ça nécessite quand même beaucoup de ressources de cerveau. Ce sont des métiers qui sont compliqués. Ça nécessite beaucoup de ressources émotionnelles aussi. Donc, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas risquer le burn-out. Mais en même temps, c'est un métier qui leur apportera tellement qu'il ne faudrait pas passer à côté non plus s'ils en ont vraiment envie, parce que enfin, moi je ne regrette pas un seul instant, mais ce serait à refaire, je referais, je signerais des quatre mains.
Alors, nous allons faire une petite pause et parlons ensuite des directives anticipées.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors docteur, qu'est-ce qu'on appelle les directives anticipées et comment en gérer l'application?
Alors, les directives anticipées, c'est pas tout à fait neuf parce que ça date de la loi de 2002 Kouchner. Et il s'agit de d'offrir, alors c'est pas obligatoire. C'est une proposition qui est faite d'offrir à toute personne bien portante comme malade, mais bien portante aussi, de mettre sur n'importe quelle forme de papier, et pas forcément sur des formulaires officiels, les points les plus importants qu'ils aimeraient voir mettre en application si jamais ils n'étaient pas capables de les dire eux-mêmes face à l'équipe médicale qui prendra en charge une maladie très grave ou terminale. Alors, ça peut être, la plupart du temps, c'est « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique ». Ça tombe bien, la loi l'interdit, donc on n'en fera pas.
Oui, mais où s'arrête l'acharnement thérapeutique? Parce qu'on comprend bien ce que c'est, mais il y a une frontière.
Alors, l'acharnement thérapeutique, c'est un mot qu'on n'emploie plus, mais qu'on peut employer dans le langage commun. C'est ce qu'on appelle actuellement l'obstination déraisonnable. C'est-à-dire, c'est le moment où le médecin doit juger qu'une nouvelle proposition, par exemple de chimiothérapie ou d'intervention chirurgicale ou d'un examen par endoscopie pour aller regarder les poumons, le tube digestif, etc., n'apportera plus rien puisqu'on ne fera rien derrière. La personne n'est plus en état, par exemple, de supporter une chimiothérapie. Donc, ce n'est pas la peine d'aller explorer quelque chose si on a un résultat derrière qu'on ne pourra pas exploiter.
Oui.
C'est pareil, il y a des moments où il faut savoir arrêter de faire des prises de sang si on a décidé qu'on ne pourrait plus rien faire derrière. C'est juste pas bien traitant, quoi. Et voilà, c'est l'obstination déraisonnable, c'est ça. Et donc, à un moment donné, la personne peut exprimer elle-même ses souhaits. Alors, moi, je deviens de plus en plus réservé sur ce sujet parce que c'est d'abord extrêmement compliqué. Quand vous êtes bien portant, vous n'avez pas la moindre idée de quelle sera la pathologie qui un jour pourra vous emporter. Et vos directives peuvent ne pas du tout être les mêmes. Déjà, selon si vous êtes marié, pas marié, si vous avez des enfants, pas d'enfants, petits-enfants, pas d'enfants, et peuvent être très différentes si, pour une femme, vous êtes victime d'un cancer du sein ou d'un AVC ou d'un infarctus. Ce n'est pas forcément les mêmes choses que vous pourriez demander. Et on n'en sait rien quand on a 40 ans ou 50 ans, qu'on est bien portant et qu'on rédige ça et que c'est peut-être 90 ans quand on ressortira ce papier. Donc, moi, je pense que c'est un papier qu'il faut accompagner. Alors, nous, on essaie d'accompagner dans notre EHPAD avec plus de réunions, plus d'informations auprès des personnes pour apprendre à l'avance, éventuellement leur poser des questions pour savoir un petit peu ce qu'elles voudraient, elles, sans que... Bon, et puis en plus, les directives anticipées, ce qu'il faut bien le dire, c'est qu'on peut en changer aussi souvent qu'on veut. Hein. C'est les dernières qui comptent. Mais c'est compliqué, la traçabilité. Enfin, l'idée est bonne, mais la pratique est très compliquée. Et malheureusement, le problème, c'est que beaucoup de personnes s'en sont emparées pour en faire des documents presque notariés, vous voyez.
Alors justement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on dépose ce document quelque part comme un testament? Comment faire pour que le personnel soignant l'ait entre les mains?
Alors, il faut déjà le dire. Alors souvent, nous, on demande aux personnes s'il y en a. Il faut qu'il y ait au moins un exemplaire quelque part et qu'il y ait au moins quelqu'un qui en ait connaissance.
Mais comment prouver que c'est bon?
Alors, l'idéal, c'est de le dater, effectivement.
Ça ne suffit
et ensuite,
pas.
C'est un peu comme les testaments, quoi. Il faut. C'est pour ça que c'est un petit peu. C'est pour ça que c'est un petit peu le piège. Alors, il y a eu des tentatives un petit peu de justement au nom d'une certaine qualité de vouloir un peu enregistrer tout ça, mais le problème c'est que ça devient un petit peu officiel et une personne peut très bien changer d'avis verbalement par rapport à un document écrit. C'est pour ça que c'est un peu le piège. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'un document écrit. Si la personne qui a écrit, par exemple, « je ne veux pas de transfusion », allez, je prends un exemple que je connais bien, la transfusion, mais que elle a pu écrire ça sur un papier peu de temps avant de rentrer à l'hôpital. Et puis, les choses se passent d'une telle façon, sa relation avec l'équipe soignante fait que l'équipe soignante lui dit « Mais vous savez, c'est peut-être pas du tout ce que vous croyez, c'est peut-être un bénéfice pour vous, ça va vous apporter de l'oxygène, vous allez avoir peut-être plus de plaisir ou plus de force pour recevoir votre petit-fils que vous n'avez pas vu puisqu'il vient du Canada, ça se trouve, vous allez peut-être même pouvoir le raccompagner à l'ascenseur », des choses que la personne n'avait pas imaginées avant. Donc, elle a écrit qu'elle ne voulait pas de transfusion, mais bien présentée avec les avantages et les inconvénients, on le verra peut-être. Donc, c'est un des domaines, voilà, c'est un peu ce que je regrette dans l'organisation française, c'est ce côté très figé, très j'ai dit, et en fait, tout ce qui compte, c'est la relation, c'est-à-dire c'est tout ce qui vraiment important, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le dialogue avec la personne, entre l'équipe soignante et la personne à ce moment précis, qui peut être différent de la veille.
Alors, encore une question sur, cette fois-ci, l'IA. Vous l'abordez un petit peu. Il y a une chose qui m'a étonnée. Quand on passe un scanner, maintenant, on a deux cases. Est-ce qu'on accepte que les résultats soient lus par l'IA ou nous refusons? Et en plus, on nous dit, si vous acceptez que ce soit lu et étudié par l'IA, vous aurez moins de produits opacifiants. Alors, bon, on est tenté de dire oui, l'IA, pourquoi pas, à condition qu'il y ait le regard d'un médecin là-dessus en plus. Et je me disais, dans quelques années, les médecins seront peut-être plus aussi bien formés, s'appuyant tout le temps sur l'IA, et ne sauront pas déceler quelque chose. Est-ce que je me trompe? Cette confiance aveugle en l'IA, qui pour moi est quand même extraordinaire par ailleurs, comment se positionner quand on est médecin? Et patient.
Oui. Alors, l'IA, c'est quand même un outil. C'est toujours pareil. Il y a le meilleur et il y a le pire. L'IA, c'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire, c'est alimenté par
des connaissances,
par des connaissances et des connaissances sérieuses et générales. Et c'est vrai que l'IA, donc l'intelligence artificielle pour les personnes qui ne sauraient pas exactement
ce que
c'est
qu'il y a.
C'est un outil d'analyse extraordinaire qui va en quelques microsecondes faire le tour de tout un tas de banques de données et d'analyses et qui va analyser micromètre par micromètre beaucoup plus précisément qu'un œil humain. Ensuite, je pense que cet outil-là va devenir indispensable et ce sera un mauvais combat que de ne pas y adhérer. En revanche, il faut quand même que soit maintenu le dialogue entre le médecin et son patient, que l'examen clinique soit correctement fait, parce que l'IA, il faudra l'interpréter elle-même. L'IA va interpréter des choses, mais ensuite, il va falloir interpréter l'IA dans le contexte de la connaissance de son patient, de ce qu'il vous dit, de ce que vous avez senti, de la façon dont vous l'avez vu entrer, sortir de votre salle de consultation, se lever de la salle d'attente, etc. Tout ça, ça va vous donner des informations. Donc, l'IA, c'est un outil extrêmement puissant. Moi, je préfère un scanner bien interprété par l'IA que par un radiologue épuisé à 22h et qui se dit, allez, j'en lis encore un. Voilà. Donc, c'est ensuite,
oui.
Les radiologues, ils trouveront d'autres choses dans leur. Ils vont peut-être davantage alimenter les IA, trouver des. Eux-mêmes contrôler les IA, etc. Enfin, bon, je pense que l'IA est un bon outil. Il faut faire très attention à ne pas lui donner le pouvoir absolu. C'est pas l'IA. Par exemple, le jour où on pourrait dire bah oui, on n'a plus de médecin, toute la consultation va se faire en IA, oui, vous aurez des diagnostics. Hein,
oui.
Mais il va y avoir des choses à côté desquelles on va passer parce que il y a des outils. Enfin, pour l'instant, ensuite, on peut alimenter l'IA de telle façon que, mais il y a quand même un certain nombre de choses que le patient va vous livrer parce que vous êtes bien formé à repérer tout ça, quoi.
Alors, votre livre s'appelle « Soigner en chrétien », donc j'imagine que vous priez pour vos malades.
Absolument.
Quelle chance.
Oui. Oui, alors je prie pour mes malades et puis bah, quand je suis dépassé par une situation, j'appelle, je demande au Seigneur de venir m'aider, de venir, Seigneur, viens vite dans cette situation. J'en ai pas beau, on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut que tu m'envoies vite une inspiration là.
Alors, vous terminez votre livre avec cet espoir dans le renouveau politique et spirituel de la France, cette jeunesse qui se forme et qui part au combat dans tous les milieux professionnels de la société. Vous laissez aux lecteurs et ici aux auditeurs ces autres raisons d'espérer que nous voyons au quotidien. Alors, ne nous décourageons pas, ayons confiance. Merci beaucoup, docteur, pour votre excellent ouvrage,
Merci.
dont je rappelle le
Merci pour
titre
votre
Soigner
invitation.
en chrétien aux éditions de l'Emmanuel. Alors, j'ai eu besoin de beaucoup de concentration parce que c'est un domaine que je ne connais pas, mais je le conseille à tout le monde parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et nous n'avons malheureusement pas eu le temps de parler de vos cafés éthiques. Donc, j'invite les auditeurs à découvrir en fait ce que vous mettez en place pour le bien de chacun, pour le bien de vos patients. Et je vous en remercie. Bonne semaine, chers
Merci à vous.
auditeurs. Merci, docteur. À dimanche prochain.